Hallelujah. Tu es le roi éternel. Tu es le roi invincible. Tu es le roi qui est le tout haut. Tu es le roi qui n'a jamais été vaincu. Le roi qui existe d'âge en âge, d'éternité en éternité. Tu n'as pas de commencement, tu n'auras jamais de fin. Nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons te donner toute la gloire et reconnaître ta Seigneurie ce matin. Seigneur, s'il te plaît, bénis ce moment. Bénis ta parole. Que cette parole sauve quelqu'un ce matin. Que cette parole réconforte quelqu'un ce matin. Que cette parole instruise quelqu'un ce matin. Que cette parole redresse quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Deux Rois 4, 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle quitta, et ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentaient des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui s'arrêta. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils. » De ce qui restera. Amen. Vous vous souvenez de ce passage? Le même passage que le dimanche passé. Dans la parole de Dieu, il y a des joyaux. Le même passage, nous pouvons le prêcher plusieurs fois. Et ce matin, nous continuons avec le même message. Être un membre dynamique d'une communauté de serviteurs. Plaise à Dieu que chacun de nous soit un membre dynamique de la communauté des serviteurs. On commence par être serviteur. Ainsi, on est membre de cette communauté. Dans les services, dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de spectateurs. Ce n'est pas un stade où les gens viennent, ils applaudissent et les autres jouent au ballon. Tout le monde est acteur. Alléluia. Vous pouvez jouer assis. Vous pouvez jouer debout. Vous pouvez jouer à la maison. Vous pouvez jouer avec les finances. Et l'équipe va gagner. Amen. En lisant, en relisant ces passages, il est bon de relever trois choses importantes dans cette histoire. Premièrement, Élisée a fait preuve de compassion. Compassion. À l'idée de voir cette femme séparée de ses enfants, de ses deux enfants, Élisée est touché. Il est touché dans son corps. Il est touché dans son âme, dans son esprit, dans ses sentiments. Il souffre à sa place. Et il est animé d'un attribut retrouvé en Dieu, la compassion. La compassion. Il est saisi par la compassion. Quand tu vois quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Tu le vois comme un homme normal? Ou tu le vois se diriger vers l'enfer? Qu'est-ce que tu dis? Tu le critiques? Ou tu penses à son salut? La compassion. En fait, la compassion, c'est la pitié. C'est ce sentiment de partage d'une douleur, d'une peine ou d'une souffrance avec quelqu'un d'autre. Tu vois quelqu'un dans la misère, cela te prend, cela te saisit. Tu as la compassion. Jésus lui-même était compatissant. Combien de fois dans la Bible on parle de lui comme quelqu'un de compatissant, ému de compassion. Dans Matthieu 20, verset 34, la Bible dit, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Dans Marc 6, 34, là, la Bible dit, Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Tout ce que Jésus faisait, c'était par compassion. Il était touché dans son cœur. Et parlant de cette veuve de Naïn, dans Luc 7, verset 13, la Bible dit, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Cette veuve était restée seule, seule, seule comme un cheveu dans la soupe, seule. Elle avait son fils unique. Elle était veuve. Elle n'avait plus rien. Généralement, les veuves sont dépouillées. Elle n'avait plus rien, sinon son fils unique, qui constituait sa richesse. Et voilà, ce fils unique est mort. Elle était inconsolable. On accompagnait le fils pour l'inhumer. Et les gens l'accompagnaient. Et les gens pleuraient avec elle. Mais il y a aussi des gens qui commentaient, certainement. Mais cette vieille dame, pourquoi n'est-elle pas morte avant son fils? Elle serait bien enterrée par le fils. Maintenant que le fils est mort, qui va l'enterrer? Ce n'est pas la Bible qui dit ça, c'est moi qui le dis. Certainement, les gens raisonnaient de cette façon. Vous savez, quand les gens sont en difficulté, il y a des commentaires de tout genre. On l'accompagnait, mais il y avait des gens qui parlaient. Seul Jésus fut ému de compassion. Les gens peuvent avoir pitié de toi aujourd'hui. Les gens peuvent se moquer de toi, mais ils ne connaissent pas le lendemain. Dieu seul connaît ce qui arrive. Quand les gens disent c'est fini, Lui, Dieu dit, ça commence. Pour cette femme, c'était fini pour elle. Pour son entourage, c'était fini pour elle. Mais quelqu'un était pris de compassion, c'est Jésus. Un fils unique mort rencontre un autre fils unique vivant. La mort et la vie se heurtent. Et quand c'est cela, c'est toujours la vie qui triomphe. Jésus touche le cercueil et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Un mouvement drôle. Sa bouche. Et Jésus le prend, il dit, femme, voici ton fils, alléluia. Qui peut faire ça si ce n'est le créateur de l'homme? Jésus, j'aime Jésus. Il fait émis de compassion. Même dans les ministères, lorsque nous prions pour les gens, si nous ne sommes pas émis de compassion, rien ne se passera. En général, bien-aimé, tout ce qui se fait avec compassion réussit. Et la Bible nous recommande d'être compatissants. Dans Éphésiens 4, 32, Paul dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et combien dans l'Église n'aime pas se pardonner? Combien dans l'Église ne se parle même pas, ne s'adresse pas une parole? Je ne parle pas d'ici. Notre Église est parfaite, n'est-ce pas? Ce sont les autres Églises. Ici, tout va bien, n'est-ce pas? Tu viens, tu pries le même Dieu. Tu adores le même Dieu avec ton voisin, avec ton frère, avec ta sœur. Mais à la sortie, tu regardes ailleurs. Tu ne veux pas saluer l'autre. Il vaut mieux rester à la maison que de venir ici. Les gens du monde disent souvent, chacun pour soi et Dieu pour. Et moi, j'ai dit, chacun pour soi, le diable pour tous. Et cela devient le cheval de bataille, même au milieu des chrétiens. Ah, ça, c'est son affaire. La Bible dit, ils étaient un. Ils étaient ensemble. Quand l'autre souffre, on est touché. Quand l'autre pleure, on est touché. Vous constaterez avec moi, quand on dit, nous allons prier pour terre, les gens murmurent, mais vous ne sentez pas le fardeau. Mais quand on dit évangélisation, oh, mais ça c'est l'équipe d'évangélisation. Tout le monde, nous sommes appelés à faire le travail du Seigneur, n'est-ce pas? Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans l'église? C'est bien, tu viens chaque dimanche, mais qu'est-ce que tu fais? On dit membre dynamique de la communauté des. Où est-ce que toi tu sers? Élisée a eu compassion, bien compassion, de cette femme. Bien que ne la connaissant pas, n'ayant aucune relation d'avance avec cette veuve. La compassion. C'est ce qui animait Jésus. Élisée était compatissant. Que Dieu nous aide à avoir la compassion dans nos cœurs. La compassion. Par moment, quelqu'un vous fait du mal, mais vous avez pitié de la personne. il ne sait pas ce qu'il fait. Jésus, alors qu'il mourait, il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, tu es éclairé. Le Saint-Esprit a ouvert ton esprit pour comprendre, reconnaître certaines réalités de ce monde. Pardonne à ce païen. Et pitié de ce païen. Cela me conduit à parler du second point. J'ai dit premièrement, Élisée a eu compassion. Il était ému de compassion. Deuxièmement, le prophète a dit à la veuve de s'en sortir par ses propres moyens. La veuve devait faire sa part dans cette histoire. Et Dieu nous demande, Dieu est capable de tout faire pour nous. Mais pourquoi est-ce qu'il demande à l'homme de travailler? L'homme est appelé à travailler. Et pourtant, Dieu peut tout donner. Il y a des parents qui n'apprennent pas à travailler à leurs enfants. Et puis finalement, l'enfant se marie, surtout les femmes, les filles. La fille ne sait même pas préparer du foufou. Elle ne sait rien préparer. Très belle, des chaussures. Mais rien, travail, rien. Rien. On n'apprend pas un enfant la bourgeoisie. On apprend un enfant la vie prolétaire. Ce que tu es, c'est pas ce que ton enfant sera. Même si tu es riche, apprends l'enfant à travailler. Demain, il sera confronté à la vie. Et même si on est riche, il y a des périodes de vaches maigres. J'ai vu des gens qui étaient riches ici, dans ce pays. Des riches. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un. On pousse son vécu. J'ai regardé. Papoyo. On ne reste pas toujours riche. Lorsque cette veuve raconta son histoire au prophète, ce dernier ne lui donna pas l'argent. Il ne lui donna pas d'argent. Mais il lui dit d'aller rassembler un grand nombre de vases. Ensuite, Dieu opéra les miracles d'huile. Elle avait une part. Si elle avait refusé de faire ce qu'Élisée lui avait demandé, le miracle ne se serait pas produit. Voyez-vous, la solution d'Élisée n'était pas temporaire. C'était une solution permanente. Les solutions temporaires entraînent la dépendance qui, à la longue, devient ennuyeuse pour les donateurs et gênante pour le demandeur. Est-ce que vous m'entendez? Les solutions temporaires entraînent la dépendance qui à la longue devient ennuyeuse pour le donateur et gênante pour le demandeur. Par amour pour le prochain, aide-les à travailler pour son épanouissement total et pour instruire aussi les autres. Le travail. En travaillant, une personne s'auto-forme. En travaillant, la personne s'autofinance et prépare son avenir. Dans Proverbe 14, 23, le sage dit, Tout travail procure quoi? L'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Les paroles en l'air. Vous avez vu Macron ce qu'il a dit? Vous avez vu ce que Tshisekedi a répondu? C'est pas ton affaire. Ça, c'est la politique. Toi, travaille. C'est vrai que l'affaire du Congo nous concerne tous. Mais on ne doit pas perdre le temps à parler des paroles en l'air, en l'air, en l'air. Travaille. Travaille. Puis dans Proverbe 18:9, le sage renchérit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Frère de celui qui détruit. Même dans l'église, tu dois travailler si tu es engagé. On te paye ailleurs, les autres n'ont pas un salaire. On te paye. Mais tu dois travailler. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église que tu dois te permettre de faire ce que tu veux. Sortir quand tu veux, revenir quand tu veux. Ce n'est pas correct. Quand c'est comme ça, après tu reçois une lettre. Parce que c'est aussi une entreprise. Il faut travailler. Dans le lieu de service, un frère t'a engagé. Et tu es là à longueur de journée à lire la Bible. Tu le vois venir, bonjour frère. Il n'est pas ton frère, maintenant il est ton patron. Lève-toi et dis bonjour patron. Il ne faut pas confondre les choses. Après on dit non, frère, on a bien été à l'Oumoulana Moussala. Paresseux. Et ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on doit arrêter de travailler. Les différents échecs et même les rechutes, les difficultés, les questionnements affermissent une personne dans l'exercice de son travail. Si tu échoues, tu vas chercher à réussir. Tu acquiers une expérience. Tu apprends des choses. Les échecs ne doivent pas nous pousser à l'abandon. Je vais abandonner. Non, non. Cela doit nous pousser à tirer des leçons pour nous améliorer et aller de l'avant. À moins qu'on ne soit pas dans la volonté de Dieu. Mais si on sait qu'on est dans la volonté de Dieu est que chacun de nous travaille. Travaille. Mais aussi, je voudrais m'adresser au patron, aux autres, aux responsables, qui sont là en train de gêner les autres. Quelqu'un fait du bien, on le gêne. Comme David a tué Uri, un vaillant soldat. Mais puisqu'il sortait avec sa femme, il l'a tué. Il y a des patrons comme ça. Puisque quelqu'un dit la vérité, il est honnête. On dit c'est un homme à abattre. Sachez qu'il y a un Dieu dans les cieux qui défend ses enfants. Tes plans vont échouer parce que Dieu existe. Je suis sûr que la réussite de cette femme dans son commerce était un sujet de joie et un stimulant pour persévérer. Cette veuve s'en est sortie par ses propres moyens. Élisée a voulu qu'elle prenne part à l'histoire, qu'elle travaille. Dieu peut te donner ce que tu veux à l'instant, mais il veut que tu travailles. Il a établi des principes. Et ces principes sont éternels. Il y a des lois. La veuve s'en est sortie par ses propres moyens, ce qui lui a permis de conserver son amour propre au lieu de se sentir vulnérable et impuissante. Vous savez, le travail ennoblit l'homme. Le travail valorise l'homme. Quand tu travailles, le peu que tu reçois te donne de la valeur. Tu peux faire un programme. Tu peux te dire, je vais acheter ça tel jour. Tu peux faire des projets. Il y a des gens qui vont me dire, mais le pasteur parle comme s'il ne vit pas ici dans ce pays. Où est le marché d'emploi? Il y a des frères ici, si je leur dis, qui est votre patron? Ils vont dire, je suis le patron moi-même. Je suis le patron moi-même. Tu as terminé tes études en droit. Tu es capable de devenir un jour un avocat. Mais tu es là, tu cherches un travail. Et tu as des amis qui ont des cabinets. Tu ne peux pas travailler sous ces gens-là pour que tu apprennes et que tu passes les tests au barreau. Un jour, tu deviendras toi-même un caïman, comme on dit. Parce que les patrons, là, au niveau des cabinets, on les appelle des caïmans, n'est-ce pas, papa? Des caïmans. Ce n'est pas pourquoi on les appelle, c'est peut-être qu'ils bouffent les poissons. Tu vas devenir caïman un jour. Mais il y a des gens qui se promènent avec leur diplôme, avec l'histoire de leurs études. Mais il ne faut rien. Pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Ils n'ont pas étudié comme il faut. Et ils ne peuvent pas se défendre. Ils ne peuvent pas défendre un client. Nous avons un étudiant à la FATAD, mon épouse le sait. Il est avocat. Je ne sais pas comment il est devenu avocat. Quand il écrit, vraiment, c'est malheureux. Quand il parle aussi, c'est difficile. Je lui ai dit, frère, tu ne peux pas continuer avec les études ici. Tu dois aller apprendre le français. Il dit, comment tu fais pour défendre tes clients? Il dit, je m'arrange avec mes amis. Que le Seigneur ait pitié de notre pays. Je m'arrange avec mes amis. Et j'ai même des problèmes avec mon épouse, parce que lorsque nous sommes ensemble avec des amis, elle n'est pas contente, parce que souvent, il y a des petites fautes de français. Tu as mal étudié. C'est pourquoi il ne faut pas corrompre. Étudie convenablement. Et tu peux défendre ton titre. Je racontais une histoire quelque part. Pour ces gens-là qui ont toujours les diplômes dans la poche. Je suis docteur. Tu n'es pas infirmier, tu es docteur. Un docteur qui n'est même pas un infirmier. Un ancien vice-ministre est allé à Bukavu. Et il était reçu par le gouverneur. Et subitement, il y a eu coupure d'électricité. Le gouverneur a appelé ses agents, ses gardes qui travaillent dans sa résidence. Il dit, mais mettez en marche le groupe. On a appelé l'ingénieur, le groupe n'était pas en marche. Ça ne s'allumait pas.
Le gouverneur a dit, mais j'ai des visiteurs de marque ici. Qu'est-ce qui ne va pas avec le groupe? Il dit, mais l'ingénieur est sur ça, il travaille. Il dit, non, mais le vieux mécanicien là, le vieux papa là, où est-il? Non, il est en retraite. Non, non, allez l'appeler. On est allé appeler ce vieux papa. Le vieux papa est venu au bout de 10 minutes, 5 minutes. Brrr, le groupe était en marche. Il y a eu la lumière. Alors le vieux papa, pour se moquer de l'ingénieur, il dit, ingénieur, ingénieur, pour la diplôme, oui, mais pour la capable, non. Vous voyez, vous riez, vous savez quelque chose. Même chez nous, dans les milieux théologiques, c'est des gens qui se promènent comme ça avec des diplômes. Ils n'ont pas d'église viable. Vous allez vous trouver dans l'église, c'est sa femme, ses enfants et lui seul. Mais il a toujours son diplôme. Moi, je suis docteur. Qui n'est même pas infirmier. Bien-aimé, quand on travaille, on se valorise. Et il faut travailler. Élisée n'a pas donné l'argent à cette femme. Cette femme devait contribuer. Elle devait apporter, excusez-moi la tautologie, son apport pour que les choses marchent. Troisièmement, Élisée l'a chargé de payer sa dette en premier lieu. Sa dette en premier lieu. En la responsabilisant, cette femme a appris à s'organiser. Cette veuve qui n'avait pas l'habitude de sortir a dû organiser son temps par rapport à ses travaux, à sa maison et à ses enfants. Mais pour vendre cette huile, elle devait trouver peut-être un endroit. Elle devait peut-être envoyer ses enfants en parler aux autres. Elle était veuve, elle devait préparer pour ses enfants. Mais elle devait organiser son temps. L'organisation permet de réussir dans son entreprise. Il faut organiser son temps, son travail et sa maison. Il faut tout organiser. Je reçois les gens souvent le mardi. Et quelquefois sur rendez-vous les autres jours. Mais si les mardis, les gens viennent, ils ne me trouvent pas, alors que je ne suis pas à la façade, ils vont se décourager. Il faut un programme. Je dois aller à l'église tel jour, tel jour, tel jour, de telle heure à telle heure. Mais il ne faut pas venir dormir à l'église. Il y a des gens qui vont dormir à l'église. Après, ils vont chercher à manger. Non, non. À l'église, on doit apprendre tout. Il faut s'organiser. Il faut s'occuper de sa famille. Il faut s'occuper de son travail. En la responsabilisant aussi, cette femme a priorisé les choses. Je crois que sa priorité à cette époque, c'était de trouver un endroit, je l'ai dit, et commencer à vendre. Et elle devait être permanente à son poste pour développer sa relation avec sa clientèle. Beaucoup de gens ne sont pas stables. On commence un petit commerce ici, on vend du pain, ça marche, et les autres voient que tu vends du pain, Eux aussi, ils vont acheter du pain pour vendre à côté de toi. On ne fait pas des choses comme ça. Et quelquefois, vous voyez la personne qui vendait du pain, elle vend maintenant des arachides. Et ça marche toujours, parce que la personne est avec Dieu. Toi, ça ne marche pas, tu l'imites. Non, on ne doit pas être des imitateurs. Il faut s'organiser. Il faut savoir ce qui est notre priorité. Et en responsabilisant cette femme a payé sa dette. Elle devait payer sa dette pour être libre de toute obligation envers qui que ce soit. Ici dans l'église, il y a des gens qui ont beaucoup de dettes. Il y a des femmes qui ont des dettes, les maris ne savent pas. Mais le jour que le mari saura que la femme a des dettes, ce sera, on va voir les pasteurs. Non. Il faut éviter les dettes. Et il y a des maris qui ont des dettes, les femmes ne savent pas. C'est dangereux. Les dettes rendent esclaves. Elle devait payer sa dette pour être libre de toute obligation envers qui que ce soit. Ainsi, sa dignité est demeurée intacte. Elle a appris à s'organiser en fonction des priorités. Elle aurait pu être tentée d'utiliser abusivement cet argent. Elle aurait été tentée de ne pas régler sa dette et garder une partie pour l'affecter à l'achat des beaux vêtements, comme les dames aiment les beaux vêtements, ou acheter une maison. Or, le choix le plus judicieux était de s'acquitter de sa dette en premier. Et cette dame a payé sa dette. Elle a pu vivre avec le reste. Frères et sœurs, est-ce que ces choses nous apprennent quelque chose? À quoi bon d'avoir des habits, des beaux habits? Parce qu'on s'endette. Ça ne vous honore pas. Vous pouvez être très bien habillé, mais vous êtes esclave quelque part. Il y a des gens qui fuient l'église à cause des dettes. On s'est tellement endetté et on disparaît de l'église. On se retrouve ailleurs pour recommencer l'opération. La conscience est oblitérée. La conscience est étouffé. Et on recommence. Et un jour, on va t'attraper et on va voir dans les réseaux sociaux qui tu es véritablement. Frères et sœurs, vous pouvez tout oublier, mais sachez qu'Élisée a fait preuve de compassion. Et nous sommes appelés, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, à être compatissants. Il a dit à la veuve de s'en sortir par ses propres moyens. Il a aidé la veuve à travailler, à gagner sa vie de façon permanente, mais pas temporaire. Très souvent, ceux qui ont des moyens donnent l'argent aux membres des familles. Mais il faut donner l'argent et dire, cet argent que je te donne, débrouille-toi avec ça et viens me faire le rapport. Je t'ai donné ça pour que tu travailles. Je ne dois pas te donner tout le temps. C'est comme ça qu'on apprend aux gens à travailler. Sinon, c'est la servitude. Élisée a chargé cette veuve de payer ses dettes en premier. Et à partir de cela, cette dame a pu s'organiser. Que le Seigneur nous aide à nous organiser dans la vie. Il ne faut pas se lever un bon matin. On se lève comme ça. Tu vas où? Dans mon pépé. Et on ne sait pas où on va. Et puis tu te retrouves chez tel ami. Et après tu te retrouves chez l'autre ami. Et puis, à la fin de la journée, tu es là. Wapifoufou. Il faut organiser son temps. Si tu organises ton temps, tu seras heureux. Tu seras béni. Nous allons prier. Bien-aimé, que l'histoire de la veuve d'Élisée nous apprenne. Je sais qu'en parlant ce matin, j'ai pu parler à quelqu'un dans son cœur. Ce n'est pas moi, mais le Seigneur qui t'a parlé. Parce que c'est sa parole. Et tu es touché. Et tu as besoin accompli pour toi. Nous voulons t'aider dans la prière. Et prends des décisions qui seront salutaires pour ta vie, pour ton avenir. Tu peux lever ta main et nous allons prier ensemble. Tu es touché, lève ta main, merci. Merci, que le Seigneur vous bénisse mon frère, ma soeur. Nous voulons prier pour vous. Priez ensemble afin que le Seigneur vous assiste, qu'il vienne en aide. Qui vous viennent en aide. Papa Ernest, s'il vous plaît. Vous qui avez levé vos mains, s'il vous plaît, levez-vous là où vous êtes. Nous voulons prier ensemble avec vous. Merci.
Précieux Père Céleste, merci pour ta parole. Tu l'as envoyée ce matin parce que tu sais qu'au fond de nous, Seigneur, la compassion fait vraiment défaut. Or, la compassion, c'est ta nature. Tu es compatissant. Et tel tu es, tel nous devrions être, Seigneur. Nous sommes venus ce matin parce que nous attendions de toi cette parole, mais surtout, Seigneur, pour que nous ne rentrions pas comme nous sommes venus. Nous déposons à tes pieds, Seigneur, tout ce qui nous alourdit, pour ne pas être comme tu veux que nous soyons, de travailleurs, pas de paresseux, des hommes capables de t'honorer par leur vie, pas de dette, Seigneur, vivre dans le contentement et attendre de toi parce que tu es un Dieu riche et tu fais chaque chose en son temps. Seigneur, apprends-nous à respecter le parcours, ton parcours. De sorte que le royaume sera notre partage. Bénis le peuple, parce que Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ta parole est là pour nous corriger. Ta parole est là pour nous relever. Ta parole, c'est ton amour que tu manifestes chaque moment pour nous. Bénis ton serviteur. Permets au Dieu que cette sagesse qui sort de sa bouche ne cesse en lui accordant force. Bonne santé pour que le royaume soit prenable au nom de Jésus.
Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes.